Nana, chapitre 7. Trois mois plus tard, un soir de décembre, le comte Muffa se promenait dans le passage des panoramas. La soirée était très douce. Une averse venait d'emplir le passage d'un flot de monde. Il y avait là une cohue, un défilé pénible et lent, resserré entre les boutiques. C'était, sous les vitres blanchies de reflets, un violent éclairage, une coulée de clarté, des globes blancs, des lanternes rouges, des transparents bleus, des rampes de gaz, des montres et des éventails géants en traits de flammes, brûlant en l'air. Et le bariolage des étalages, l'or des bijoutiers, les cristaux des confiseurs, les soies claires des modistes flambaient derrière la pureté des glaces, dans le coup de lumière crue des réflecteurs. Tandis que, parmi la débandade peinturlurée des enseignes, un énorme gant de pourpre, au loin, semblait une main saignante, coupée et attachée par une manchette jaune. Doucement, le comte Muffa était remonté jusqu'au boulevard. Il jeta un regard sur la chaussée, puis revint à petits pas, rasant les boutiques. Un air humide et chauffé mettait une vapeur lumineuse dans les trois couloirs. Le long des dalles, mouillées par l'égouttement des parapluies, les pas sonnaient continuellement, sans un bruit de voix. Des promeneurs, en le coudoyant à chaque tour, l'examinaient, la face muette, blêmie par le gaz. Alors, pour échapper à ses curiosités, le comte se planta devant une papeterie où il contempla avec une attention profonde un étalage de presse-papier, des boules de verre dans lesquelles flottaient des paysages et des fleurs. Il ne voyait rien. Il songeait à Nana. Pourquoi venait-elle de mentir une fois encore? Le matin, elle lui avait écrit de ne pas se déranger le soir, en prétextant que Louiset était malade et qu'elle passerait la nuit chez sa tante à le veiller. Mais lui, soupçonneux, s'étant présenté chez elle, avait appris par le concierge que madame, justement, partait pour son théâtre. Cela l'étonnait, car elle ne jouait pas dans la pièce nouvelle. Pourquoi donc ce mensonge, et que pouvait-elle faire aux variétés ce soir-là? Bousculé par un passant, le comte, sans en avoir conscience, quitta les presse-papiers et se trouva devant une vitrine de bimbeloterie, regardant de son air absorbé un étalage de carnets et de porte-cigares, qui tous, sur un coin, avaient la même hirondelle bleue. Certainement, Nana était changée. Dans les premiers temps, après son retour de la campagne, elle le rendait fou, quand elle le baisait autour de la figure, sur ses favoris, avec des câlineries de chatte, en lui jurant qu'il était le bien-aimé, le seul petit homme qu'elle adora. Il n'avait plus peur de Georges, retenu par sa mère au fond d'être. Restait le gros Steiner, qu'il pensait remplacer, mais sur lequel il n'osait provoquer une explication. Il le savait de nouveau dans un gâchis d'argent extraordinaire, près d'être exécuté à la bourse, se cramponnant aux actionnaires des Salines des Landes, tâchant de leur faire suer un dernier versement. Quand il le rencontrait chez Nana, celle-ci lui expliquait d'un ton raisonnable qu'elle ne voulait pas le flanquer à la porte comme un chien après ce qu'il avait dépensé pour elle. D'ailleurs, depuis trois mois, il vivait au milieu d'un tel étourdissement sensuel qu'en dehors du besoin de la posséder, il n'éprouvait rien de bien net. C'était, dans l'éveil tardif de sa chair, une gloutonnerie d'enfant qui ne laissait pas de place à la vanité ni à la jalousie. Une seule sensation précise pouvait le frapper. Nana devenait moins gentille. Elle ne le baisait plus sur la barbe. Cela l'inquiétait. Il se demandait ce qu'elle avait à lui reprocher, en homme qui ignore les femmes. Cependant, il croyait contenter tous ses désirs. et il revenait toujours à la lettre du matin, à cette complication de mensonge, dans le but si simple de passer la soirée à son théâtre. Sous une nouvelle poussée de la foule, il avait traversé le passage. Il se creusait la tête devant un vestibule de restaurant, les yeux fixés sur des alouettes plumées et sur un grand saumon allongé dans une vitrine. Enfin, il parut s'arracher à ce spectacle. Il se secoua, leva les yeux, s'aperçut qu'il était près de 9 heures. Nana allait sortir, il exigerait la vérité. Et il marcha en se rappelant les soirées passées déjà en cet endroit, quand il la prenait à la porte du théâtre. Toutes les boutiques lui étaient connues. Il en retrouvait les odeurs, dans l'air chargé de gaz, des senteurs rudes de cuir de Russie, des parfums de vanille montant du sous-sol d'un chocolatier, des haleines de musc soufflées par les portes ouvertes des parfumeurs. Aussi n'osait-il plus s'arrêter devant les visages pâles des dames du comptoir qui le regardaient placidement, en figure de connaissance. Un instant, il sembla étudier la file des petites fenêtres rondes au-dessus des magasins, comme s'il les voyait pour la première fois dans l'encombrement des enseignes. Puis de nouveau, il monta jusqu'au boulevard, se tint là une minute. La pluie ne tombait plus qu'en une poussière fine, dont le froid sur ses mains le calma. Maintenant, il songeait à sa femme, qui se trouvait près de Mâcon, dans un château où son amie, Madame de Chézel, était très souffrante depuis l'automne. Les voitures sur la chaussée roulaient au milieu d'un fleuve de boue. La campagne devait être abominable par ce vilain temps. Mais, tout à coup pris d'inquiétude, il rentra dans la chaleur étouffée du passage. Il marcha à grandes enjambées parmi les promeneurs. La pensée lui était venue que, si Nana se méfiait, elle filerait par la galerie Montmartre. Dès lors, le comte fit le guet à la porte même du théâtre. Il n'aimait pas attendre dans ce bout de couloir où il craignait d'être reconnu. C'était, à l'angle de la galerie des variétés et de la galerie Saint-Marc, un coin louche, avec des boutiques obscures, une cordonnerie sans clientèle, des magasins de meubles poussiéreux, un cabinet de lecture enfumé, somnolent, dont les lampes encapuchonnées dormaient, le soir, dans une lueur verte. Et il n'y avait jamais là que des messieurs bien mis et patients, rôdant parmi ce qui encombre une entrée des artistes, des souleries de machinistes et des guenilles de figurantes. Devant le théâtre, un seul bec de gaz, dans un globe dépoli, éclairait la porte. Muffa eut un moment l'idée de questionner Madame Bron. Puis la crainte lui vint que Nana, prévenue, ne se sauvât par le boulevard. Il reprit sa marche, résolu à attendre qu'on le mît dehors pour fermer les grilles, comme cela était arrivé 2 fois. La pensée de rentrer coucher seule lui serrait le cœur d'angoisse. Chaque fois que des filles en cheveux, des hommes au linge sale, sortait et le dévisageait, il revenait se planter devant le cabinet de lecture, où, entre 2 affiches collées sur une vitre, il retrouvait le même spectacle. Un petit vieux, raidi et seul à l'immense table, dans la tache verte d'une lampe, lisant un journal vert avec des mains vertes. Mais, quelques minutes avant 10 heures, un autre monsieur, un grand bel homme, blond, ganté juste, se promena lui aussi devant le théâtre. Alors, tous deux, à chaque tour, se jetèrent un coup d'œil oblique, d'un air méfiant. Le comte poussait jusqu'à l'angle des 2 galeries, ornées d'un haut panneau de glace. Et là, en s'apercevant, la mine grave, l'allure correcte, il éprouvait une honte mêlée de peur. 10 heures sonnèrent. Muffa, brusquement, pensa qu'il lui était bien facile de s'assurer si Nana se trouvait dans sa loge. Il monta les 3 marches, traversa le petit vestibule badigeonné de jaune, puis se glissa dans la cour par une porte qui fermait simplement au loquet. À cette heure, la cour, étroite, humide comme un fond de puits, avec ses cabinets d'aisance empestés, sa fontaine, le fourneau de cuisine et les plantes, dont la concierge l'encombrait, étaient noyées d'une vapeur noire. Mais les deux murs qui se dressaient, troués de fenêtres, flamboyaient. En bas, le magasin des accessoires et le poste des pompiers. À gauche, l'administration. À droite et en haut, les loges des artistes. C'était, le long de ce puits, comme des gueules de four ouvertes sur les ténèbres. Le comte avait tout de suite vu les vitres de la loge éclairée au premier étage. Et, soulagé, heureux, il s'oubliait, les yeux en l'air, dans la boue grasse et la fade puanteur de ce derrière de vieille maison parisienne. De grosses gouttes tombaient d'une gouttière crevée. Un rayon de gaz, glissé de la fenêtre de Madame Bron, jaunissait un bout de pavé moussu, un bas de muraille mangé par les eaux d'un évier, tout un coin d'ordure embarrassé de vieux seaux et de terrine fendue, où verdissait, dans une marmite, un maigre fusain. Il y eut un grincement d'espagnolette, le comte se sauva. Certainement, Nana allait descendre. Il retourna devant le cabinet de lecture. Dans l'ombre endormie, tachée d'une lueur de veilleuse, le petit vieux n'avait pas bougé, le profil cassé sur son journal. Puis il marcha encore. Maintenant, il poussait sa promenade plus loin. Il traversait la grande galerie, suivait la galerie des variétés jusqu'à la galerie Feydeau, déserte et froide, enfoncée dans une obscurité lugubre. Et il revenait. Il passait devant le théâtre, tournait le coin de la galerie Saint-Marc, se risquait jusqu'à la galerie Montmartre, où une machine sciant du sucre chez un épicier l'intéressait. Mais, au troisième tour, la peur que Nana ne s'échappât derrière son dos fit perdre tout respect humain. Il se planta, avec le monsieur Blond, devant le théâtre même, échangeant tous deux un regard d'humilité fraternelle, allumé d'un restant de défiance sur une rivalité possible. Des machinistes, qui sortaient fumer une pipe pendant un entr'acte, les bousculèrent sans que ni l'un ni l'autre osât se plaindre. Trois grandes filles, mal peignées, en robes sales, parurent sur le seuil, croquant des pommes, crachant les trognons. Et ils baissèrent la tête. Ils restèrent sous l'effronterie de leurs yeux et la crudité de leurs paroles, éclaboussés, salis par ces coquines, qui trouvèrent drôle de se jeter sur eux en se poussant. Justement, Nana descendait les trois marches. Elle devint toute blanche lorsqu'elle aperçut Muffa. « Ah, c'est vous ? » balbutia-t-elle. Les figurantes, qui ricanaient, eurent peur en la reconnaissant, et elles demeuraient plantées en ligne, d'un air raide et sérieux, de servantes surprises par madame en train de mal faire. Le grand monsieur Blond s'était écarté, à la fois rassuré et triste. « Eh bien, donnez-moi le bras !» reprit Nana avec impatience. Ils s'en allèrent doucement. Le comte, qui avait préparé des questions, ne trouvait rien à dire. Ce fut elle qui, d'une voix rapide, conta une histoire. Elle était encore chez sa tante à 8 heures, puis, voyant Louiset beaucoup mieux, elle avait eu l'idée de descendre un instant au théâtre. « Quelque affaire importante ? » demanda-t-il. « Oui, une pièce nouvelle, » répondit-elle après avoir hésité. « On voulait avoir mon avis. » Il comprit qu'elle mentait. Mais la sensation tiède de son bras, fortement appuyé sur le sien, le laissait sans force. Il n'avait plus ni colère ni rancune de sa longue attente. Son unique souci était de la garder là, maintenant qu'il la tenait. Le lendemain, il tâcherait de savoir ce qu'elle était venue faire dans sa loge. Nana, toujours hésitante, visiblement en proie au travail intérieur d'une personne qui tâche de se remettre et de prendre un parti, s'arrêta en tournant le coin de la galerie des variétés devant l'étalage d'un éventailliste. « Tiens, » murmura-t-elle, « c'est joli, cette garniture de nacre avec ses plumes. » Puis, d'un ton indifférent, « Alors, tu m'accompagnes chez moi ?»«
Mais sans doute, » dit-il étonné, « puisque ton enfant va mieux. »
Elle regretta son histoire.
Peut-être Louisé avait-il une nouvelle crise, et elle parla de retourner au Batignolles.
Mais, comme il offrait d'y aller aussi, elle n'insista pas. Un instant, elle eut la rage blanche d'une femme qui se sent prise et qui doit se montrer douce. Enfin, elle se résigna, elle résolut de gagner du temps. Pourvu qu'elle se débarrassât du comte vers minuit, tout s'arrangerait à son désir.
« C'est vrai, tu es garçon ce soir, » murmura-t-elle. « Ta femme ne revient que demain matin, n'est-ce pas ?»«
Oui, » répondit Muffa, un peu gêné de l'entendre parler familièrement de la comtesse. Mais elle appuya, demandant l'heure du train, voulant savoir s'il irait à la gare l'attendre. Elle avait encore ralenti le pas, comme très intéressée par les boutiques.
« Vois donc !» dit-elle, arrêtée de nouveau devant un bijoutier. « Quel drôle de bracelet !»
Elle adorait le passage des panoramas. C'était une passion qui lui restait de sa jeunesse pour le clinquant de l'article de Paris, les bijoux faux, le zinc doré, le carton jouant le cuir. Quand elle passait, elle ne pouvait s'arracher des étalages, comme à l'époque où elle traînait ses savates de gamine, s'oubliant devant les sucreries d'un chocolatier, écoutant jouer de l'orgue dans une boutique voisine, prise surtout par le goût criard des bibelots à bon marché, des nécessaires dans des coquilles de noix, des hottes de chiffonnier pour les cure-dents, des colonnes Vendôme et des obélisques portant des thermomètres. Mais ce soir-là, elle était trop secouée, elle regardait sans le voir. Ça l'ennuyait à la fin de n'être pas libre, et dans sa révolte sourde montait le furieux besoin de faire une bêtise. La belle avance d'avoir des hommes bien. Elle venait de manger le prince et Steiner à des caprices d'enfant, sans qu'elle sût où l'argent passait. Son appartement du boulevard Haussmann n'était même pas entièrement meublé. Seul le salon, tout en satin rouge, détonnait, trop orné et trop plein. À cette heure, pourtant, les créanciers la tourmentaient plus qu'autrefois lorsqu'elle n'avait pas le sou, chose qui lui causait une continuelle surprise, car elle se citait comme un modèle d'économie. Depuis un mois, ce voleur de Steiner trouvait 1 000 francs à grand-peine les jours où elle menaçait de le flanquer dehors s'il ne les apportait pas. Quant à Muffa, il était idiot, il ignorait ce qu'on donnait, et elle ne pouvait lui en vouloir de son avarice. Ah ! Comme elle aurait lâché tout ce monde si elle ne s'était répété 20 fois par jour des maximes de bonne conduite. Il fallait être raisonnable, Zoé le disait chaque matin. Elle-même avait toujours présent un souvenir religieux, la vision royale de Chamon, sans cesse évoquée et grandie. Et c'était pourquoi, malgré un tremblement de colère contenu, elle se faisait soumise au bras du comte, en allant d'une vitrine à l'autre, au milieu des passants plus rares. Dehors, le pavé séchait. Un vent frais qui enfilait la galerie balayait l'air chaud sous le vitrage, effarait les lanternes de couleur, les rampes de gaz, l'éventail géant, brûlant comme une pièce d'artifice. À la porte du restaurant, un garçon éteignait les globes, tandis que, dans les boutiques vides et flambantes, les dames de comptoir, immobiles, semblaient s'être endormies, les yeux ouverts.
« Oh, cet amour !» reprit Nana, « au dernier étalage !»
Revenant de quelques pas pour s'attendrir sur une levrette en biscuit, une patte levée devant un nid caché dans des roses. Ils quittèrent enfin le passage, et elle ne voulut pas de voiture. « Il faisait très bon, » disait-elle. D'ailleurs, rien ne les pressait.
ce serait charmant de rentrer à pied. » Puis, arrivée devant le café anglais, elle eut une envie. Elle parla de manger des huîtres, racontant qu'elle n'avait rien pris depuis le matin à cause de la maladie de Louisée. Muffa n'osa la contrarier. Il ne s'affichait pas encore avec elle. Il demanda un cabinet, filant vite le long des corridors. Elle le suivait en femme qui connaissait la maison. Et ils allaient entrer dans un cabinet, dont un garçon tenait la porte ouverte, lorsque, d'un salon voisin, où s'élevait une tempête de rires et de cris, un homme sortit brusquement. C'était Daguenet. « Tiens, Nana !» cria-t-il. Vivement, le comte avait disparu dans le cabinet, dont la porte resta entrebâillée. Mais, comme son dos rond fuyait, Daguenet cligna les yeux en ajoutant d'un ton de blague « Fichtre, tu vas bien, tu les prends aux Tuileries maintenant ?» Nana sourit, un doigt sur les lèvres, pour le prier de se taire. Elle le voyait très lancé, heureuse pourtant de le rencontrer là, lui gardant un coin de tendresse, malgré sa saleté de ne pas la reconnaître lorsqu'il se trouvait avec des femmes comme il faut. « Que deviens-tu » demanda-t-elle amicalement. « Je me range. Vrai, je songe à me marier. » Elle haussa les épaules d'un air de pitié. Mais lui, en plaisantant, continuait, disait que ce n'était pas une vie de gagner à la bourse juste de quoi donner des bouquets aux dames pour rester au moins un garçon propre. Ses 300 000 francs lui avaient duré 18 mois. Il voulait être pratique. Il épouserait une grosse dot et finirait préfet comme son père. Nana souriait toujours, incrédule. Elle indiqua le salon d'un mouvement de tête. « Avec qui es-tu là ?»« Oh, toute une bande !» dit-il, oubliant ses projets sous une bouffée d'ivresse. « Imagine-toi que Léa raconte son voyage en Égypte. C'est d'un drôle. Il y a une histoire de bain. » Et il raconta l'histoire. Nana s'attardait complaisamment. Ils avaient fini par s'adosser, l'un devant l'autre dans le corridor. Des becs de gaz brûlaient sous le plafond bas, une vague odeur de cuisine dormait entre les plis des tentures. Par moments, pour s'entendre, lorsque le vacarme du salon redoublait, ils devaient approcher leurs visages. Toutes les 20 secondes, un garçon chargé de plats, trouvant le corridor barré, les dérangeait. Mais eux, sans s'interrompre, s'effaçaient contre les murs, tranquilles, causant comme chez eux, au milieu du tapage des soupeurs et de la bousculade du service. « Vois donc !» murmura le jeune homme en montrant d'un signe la porte du cabinet où Muffa avait disparu. Tous deux regardèrent. La porte avait de petits frémissements. Un souffle semblait l'agiter. Enfin, avec une lenteur extrême, elle se ferma sans le moindre bruit. Ils échangèrent un rire silencieux. Le comte devait avoir une bonne tête, seul là-dedans. « À propos, demanda-t-elle, as-tu lu l'article de Fauchery sur moi ?»« Oui, la mouche d'or, répondit Daguenet. Je ne t'en parlais pas, craignant de te faire de la peine. » « De la peine ? Pourquoi ? Il est très long, son article. » Elle était flattée qu'on s'occupât de sa personne dans le Figaro. Sans les explications de son coiffeur, Francis, qui lui avait apporté le journal, elle n'aurait pas compris qu'il s'agissait d'elle. Daguenet l'examinait en dessous, en ricanant de son air blagueur. Enfin, puisqu'elle était contente, tout le monde devait l'être. « Excusez !» cria un garçon qui les sépara, tenant à deux mains une bombe glacée. Nana avait fait un pas vers le petit salon où Muffa attendait. « Eh bien, adieu !» reprit Daguenet. « Va retrouver ton cocu !» De nouveau, elle s'arrêta. « Pourquoi l'appelles-tu cocu ?»«
Parce que c'est un cocu, parbleu !»
Elle revint s'adosser au mur, profondément intéressée.
« Ah !
Dit-elle simplement.
« Comment, tu ne savais pas ça ? Sa femme couche avec Fauchery, ma chère !»«
Ça doit avoir commencé à la campagne. Tout à l'heure, Fauchery m'a quitté, comme je venais ici. Et je me doute d'un rendez-vous chez lui pour ce soir. Ils ont inventé un voyage, je crois. »
Nana demeura muette sous le coup de l'émotion. « Je m'en doutais, » dit-elle enfin en tapant sur ses cuisses. « J'avais deviné, rien qu'à la voir l'autre fois sur la route.
Si c'est possible, une femme honnête tromper son mari. Et avec cette roulure de Fauchery,
il va lui en apprendre de propre.
« Oh !» murmura Daguenay méchamment. « Ce n'est pas son coup d'essai. Elle en sait peut-être autant que lui. »
Alors elle eut une exclamation indignée.
« Vrai ! Quel joli monde ! C'est trop sale !»«
Excusez !» cria un garçon chargé de bouteilles en les séparant. Daguenay la ramena, la retint un instant par la main. Il avait pris sa voix de cristal, une voix aux notes d'harmonica qui faisait tout son succès auprès de ces dames.
« Adieu, chérie. Tu sais, je t'aime toujours. »
Elle se dégagea, et, souriante, la parole couverte par un tonnerre de cris et de bravo, dont la porte du salon tremblait,
« Bête, c'est fini.
Mais ça ne fait rien. Monte donc un de ces jours. Nous causerons. » Puis, redevenant très grave, du ton d'une bourgeoise révoltée,
« Ah, il est cocu !»«
Eh bien, mon cher, c'est embêtant. Moi, ça m'a toujours dégoûté, un cocu. »
Quand elle entra enfin dans le cabinet, elle aperçut Muffat, assis sur un étroit divan, qui se résignait, la face blanche, les mains nerveuses. Il ne lui fit aucun reproche. Elle, toute remuée, était partagée entre la pitié et le mépris. Ce pauvre homme, qu'une vilaine femme trompait si indignement, elle avait envie de se jeter à son cou pour le consoler.
Mais tout de même, c'était juste, il était idiot avec les femmes, ça lui apprendrait.
Cependant, la pitié l'emporta. Elle ne le lâcha pas après avoir mangé ses huîtres comme elle se l'était promis. Ils restèrent à peine un quart d'heure au café anglais et rentrèrent ensemble boulevard Haussmann. Il était 11 heures. Avant minuit, elle aurait bien trouvé un moyen doux de le congédier. Par prudence, dans l'antichambre, elle donna un ordre à Zoé.
« Tu le guetteras, tu lui recommanderas de ne pas faire de bruit si l'autre est encore avec moi. »«
Mais où le mettrai-je, madame ?»«
Garde-le à la cuisine, c'est plus sûr. »
Muffat, dans la chambre, ôtait déjà sa redingote. Un grand feu brûlait. C'était toujours la même chambre, avec ses meubles de palissandre, ses tentures et ses sièges de damas brochés, à grandes fleurs bleues sur fond gris. Deux fois, Nana avait rêvé de la refaire, la première tout en velours noir, la seconde en satin blanc, avec des nœuds roses. Mais dès que Stenner consentait, elle exigeait l'argent que ça coûterait pour le manger. Elle avait eu seulement le caprice d'une peau de tigre devant la cheminée et d'une veilleuse de cristal pendue au plafond.
« Moi, je n'ai pas sommeil, je ne me couche pas, »
dit-elle lorsqu'ils se furent enfermés. Le comte lui obéissait avec une soumission d'homme qui ne craint plus d'être vu. Son unique souci était de ne pas la fâcher.
« Comme tu voudras, » murmura-t-il.
Pourtant, il retira encore ses bottines avant de s'asseoir devant le feu. Un des plaisirs de Nana était de se déshabiller en face de son armoire à glace où elle se voyait en pied. Elle faisait tomber jusqu'à sa chemise, puis, toute nue, elle s'oubliait, elle se regardait longuement. C'était une passion de son corps, un ravissement du satin de sa peau et de la ligne souple de sa taille, qui la tenait sérieuse, attentive, absorbée dans un amour d'elle-même. Souvent, le coiffeur la trouvait ainsi, sans qu'elle tournât la tête. Alors Muffat se fâchait, et elle restait surprise. Que lui prenait-il ? Ce n'était pas pour les autres, c'était pour elle. Ce soir-là, voulant se mieux voir, elle alluma les 6 bougies des appliques. Mais, comme elle laissait glisser sa chemise, elle s'arrêta, préoccupée depuis un moment, ayant une question au bord des lèvres. « Tu n'as pas lu l'article du Figaro ? Le journal est sur la table. » Le rire de Daguenay lui revenait à la mémoire. Elle était travaillée d'un doute. Si ce Fauchery l'avait débinée, elle se vengerait. « On prétend qu'il s'agit de moi là-dedans, » reprit-elle en affectant un air d'indifférence. « Hein, chérie, quelle est ton idée ?» Et, lâchant la chemise, attendant que Muffa eût fini sa lecture, elle resta nue. Muffa lisait lentement. La chronique de Fauchery, intitulée « La mouche d'or », était l'histoire d'une fille, née de 4 ou 5 générations d'ivrognes, le sang gâté par une longue hérédité de misère et de boisson, qui se transformait chez elle en un détraquement nerveux de son sexe de femme. Elle avait poussé dans un faubourg, sur le pavé parisien, et, grande, belle, de chair superbe, ainsi qu'une plante de plein fumier, elle vengeait les gueux et les abandonnés dont elle était le produit. Avec elle, la pourriture qu'on laissait fermenter dans le peuple remontait et pourrissait l'aristocratie. Elle devenait une force de la nature, un ferment de destruction, sans le vouloir elle-même, corrompant et désorganisant Paris entre ses cuisses de neige, le faisant tourner comme des femmes chaque mois font tourner le lait. Et c'était à la fin de l'article que se trouvait la comparaison de la mouche. Une mouche couleur de soleil, envolée de l'ordure, une mouche qui prenait la mort sur les charognes tolérées le long des chemins, et qui, bourdonnante, dansante, jetant un éclat de pierreries, empoisonnait les hommes rien qu'à se poser sur eux, dans les palais où elle entrait par les fenêtres. Muffa leva la tête, les yeux fixes, regardant le feu. « Eh bien ?» demanda Nana. Mais il ne répondit pas. Il parut vouloir relire la chronique. Une sensation de froid coulait de son crâne sur ses épaules. Cette chronique était écrite à la diable, avec des cabrioles de phrases, une outrance de mots imprévus et de rapprochements baroques. Cependant, il restait frappé par sa lecture, qui brusquement venait d'éveiller en lui tout ce qu'il n'aimait point à remuer depuis quelques mois. Alors il leva les yeux. Nana s'était absorbée dans son ravissement d'elle-même. Elle pliait le cou, regardant avec attention dans la glace un petit signe brun qu'elle avait au-dessus de la hanche droite, et elle le touchait du bout du doigt. Elle le faisait saillir en se renversant davantage, le trouvant sans doute drôle et joli à cette place. Puis elle étudia d'autres parties de son corps, amusée, reprise de ses curiosités vicieuses d'enfant. Ça la surprenait toujours de se voir. Elle avait l'air étonnée et séduite d'une jeune fille qui découvre sa puberté. Lentement, elle ouvrit les bras pour développer son torse de Vénus grasse. Elle ploya la taille, s'examinant de dos et de face, s'arrêtant au profil de sa gorge, aux rondeurs fuyantes de ses cuisses. Et elle finit par se plaire au singulier jeu de se balancer à droite, à gauche, les genoux écartés, la taille roulant sur les reins, avec le frémissement continu d'une almée dansant la danse du ventre. Muffa la contemplait. Elle lui faisait peur. Le journal était tombé de ses mains. Dans cette minute de vision nette, il se méprisait. C'était cela. En 3 mois, elle avait corrompu sa vie. Il se sentait déjà gâté jusqu'aux moelles par des ordures qu'il n'aurait pas soupçonnées. Tout allait pourrir en lui à cette heure. Il eut un instant conscience des accidents du mal. Il vit la désorganisation apportée par ce ferment. Lui empoisonné, sa famille détruite, un coin de société qui craquait et s'effondrait. Et, ne pouvant détourner les yeux, il la regardait fixement. il tâchait de s'emplir du dégoût de sa nudité. Nana ne bougeait plus. Un bras derrière la nuque, une main prise dans l'autre, elle renversait la tête, les coudes écartés. Il voyait en raccourci ses yeux demi-clos, sa bouche entr'ouverte, son visage noyé d'un rire amoureux. Et par derrière, son chignon de cheveux jaunes dénoués lui couvrait le dos d'un poil de lionne. Ployée et le flanc tendu, elle montrait les reins solides, la gorge dure d'une guerrière, aux muscles forts sous le grain satiné de la peau. Une ligne fine, à peine ondée par l'épaule et la hanche, filait d'un de ses coudes à son pied. Muffa suivait ce profil si tendre, ses fuites de chair blonde se noyant dans des lueurs dorées, ses rondeurs où la flamme des bougies mettait des reflets de soie. Il songeait à son ancienne horreur de la femme, au monstre de l'écriture, lubrique, sentant le fauve. Nana était toute velue, un duvet de rousse faisait de son corps un velours. Tandis que, dans sa croupe et ses cuisses de cavale, dans les renflements charnus creusés de plis profonds qui donnaient au sexe le voile troublant de leur ombre, il y avait de la bête. C'était la bête d'or, inconsciente comme une force, et dont l'odeur seule gâtait le monde. Muffa regardait toujours, obsédé, possédé, au point qu'ayant fermé les paupières pour ne plus voir, l'animal reparut au fond des ténèbres, grandi, terrible, exagérant sa posture. Maintenant, il serait là, devant ses yeux, dans sa chair, à jamais. Mais Nana se pelotonnait sur elle-même. Un frisson de tendresse semblait avoir passé dans ses membres. Les yeux mouillés, elle se faisait petite, comme pour se sentir mieux. Puis, elle dénoua les mains, les abaissa le long d'elle, par un glissement, jusqu'au sein, qu'elle écrasa d'une étreinte nerveuse. Et, rengorgée, se fondant dans une caresse de tout son corps, elle se frotta les joues à droite, à gauche, contre ses épaules, avec câlinerie. Sa bouche goulue soufflait sur elle le désir. Elle allongea les lèvres, elle se baisa longuement près de l'aisselle, en riant à l'autre Nana, qui, elle aussi, se baisait dans la glace. Alors, Muffa eut un soupir bas et prolongé. Ce plaisir solitaire l'exaspérait. Brusquement, tout fut emporté en lui, comme par un grand vent. Il prit Nana à bras-le-corps, dans un élan de brutalité, et la jeta sur le tapis. « Laisse-moi » cria-t-elle. « Tu me fais du mal !» Il avait conscience de sa défaite. Il la savait stupide, ordurière et menteuse, et il la voulait, même empoisonnée. « Oh, c'est bête !» dit-elle furieuse quand il la laissa se relever. Pourtant, elle se calma. Maintenant, il s'en irait. Après avoir passé une chemise de nuit garnie de dentelle, elle vint s'asseoir par terre devant le feu. C'était sa place favorite. Comme elle le questionnait de nouveau sur la chronique de Faucherie, Muffa répondit vaguement, désireux d'éviter une scène. D'ailleurs, elle déclara qu'elle avait Faucherie quelque part. Puis, elle tomba dans un long silence, réfléchissant au moyen de renvoyer le compte. Elle aurait voulu une manière aimable, car elle restait bonne fille, et ça l'ennuyait de faire de la peine aux gens. D'autant plus que celui-là était cocu, idée qui avait fini par l'attendrir. « Alors, dit-elle enfin, c'est demain matin que tu attends ta femme ?» Muffa s'était allongé dans le fauteuil, l'air assoupi, les membres là. Il dit oui d'un signe. Nana le regardait, sérieuse, avec un sourd travail de tête. Assise sur une cuisse, dans le chiffonnage léger de ses dentelles, elle tenait l'un de ses pieds nus entre ses deux mains, et machinalement elle le tournait, le retournait. « Il y a longtemps que tu es mariée ?» demanda-t-elle. « 19 ans, » répondit le comte. « Ah,
Et ta femme est-elle aimable? Faites-vous bon ménage ensemble?
Il se tut, puis d'un air gêné.
Tu sais que je t'ai prié de ne jamais parler de ces choses.
Tiens, pourquoi donc?
Cria-t-elle, se vexant déjà.
Je ne la mangerai pas, ta femme, pour sûr, pour parler d'elle.
Mon cher, toutes les femmes se valent.
Mais elle s'arrêta, de peur d'en dire trop. Seulement, elle prit un air supérieur, parce qu'elle se croyait très bonne.
Ce pauvre homme, il fallait le ménager.
D'ailleurs, une idée gaie lui était venue. Elle souriait en l'examinant. Elle reprit.
« Dis donc, je ne t'ai pas conté l'histoire que Fauchery fait courir sur toi. »
« Voilà une vipère. Je ne lui en veux pas, puisque son article est possible. Mais c'est une vraie vipère, tout de même. »
Et riant plus fort, lâchant son pied, elle se traîna et vint appuyer sa gorge contre les genoux du comte.
Imagine-toi, il jure que tu l'avais encore lorsque tu as épousé ta femme.
Hein? Tu l'avais encore?
Hein? Est-ce vrai?
Elle le pressait du regard. Elle avait remonté les mains jusqu'à ses épaules et le secouait pour lui arracher cette confession.
Sans doute, répondit-il enfin d'un ton grave.
Alors elle s'abattit de nouveau à ses pieds, dans une crise de fou rire, bégayant, lui donnant des tapes.
« Non, c'est impayable, il n'y a que toi, tu es un phénomène.
Mais mon pauvre chien, tu as dû être d'un bête. Quand un homme ne sait pas, c'est toujours si drôle.
Par exemple, j'aurais voulu vous voir.
Et ça s'est bien passé?
Raconte un peu, oh, je t'en prie, raconte. »
Elle l'accabla de questions, demandant tout, exigeant des détails. Et elle riait si bien, avec de brusques éclats qui la faisaient se tordre, la chemise glissée et retroussée, la peau dorée par le grand feu, que le comte, peu à peu, lui conta sa nuit de noces. Il n'éprouvait plus aucun malaise. Cela finissait par l'amuser lui-même d'expliquer, selon l'expression convenable, comment il l'avait perdue. Il choisissait seulement les mots par un reste de honte. La jeune femme, lancée, l'interrogea sur la comtesse. Elle était merveilleusement faite, mais un vrai glaçon à ce qu'il prétendait.
« Oh, va » murmura-t-il lâchement, « tu n'as pas à être jalouse. »
Nana avait cessé de rire. Elle reprit sa place, le dos au feu, ramenant de ses deux mains jointes ses genoux sous le menton. Et, sérieuse, elle déclara.
« Mon cher, ça ne vaut rien d'avoir l'air godiche devant sa femme le premier soir.
« Pourquoi ? » demanda le comte surpris.
« Parce que, »
répondit-elle lentement, d'un air doctoral. Elle professait, elle hochait la tête. Cependant, elle daigna s'expliquer plus clairement.
« Vois-tu, moi, je sais comment ça se passe. « Eh bien, mon petit, les femmes n'aiment pas qu'on soit bête. Elles ne disent rien parce qu'il y a la pudeur, tu comprends. Mais sois sûr qu'elles en pensent joliment long. Et tôt ou tard, quand on n'a pas su, elles vont s'arranger ailleurs. Voilà, mon loup. »